Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Europe 1 écoute le monde changer et ses vertus chaque jour à vous le raconter. À 10h, le samedi, c'est le temps de prendre son temps et un peu de hauteur jusqu'à 11h. Bonjour et bienvenue au débat des grandes voix historiques d'Europe 1. J'ai nommé Gérard Carrérou, Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour Sébastien.
Au menu aujourd'hui, l'annonce de la semaine.
Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022.
La candidature de Xavier Bertrand sème la zizanie à droite. Votre décryptage à suivre les grandes voix avant son interview événement demain sur Europe 1 au grand rendez-vous à 10h. Deuxième thème du jour, le Covid, de plus en plus incontrôlable en France. Mais Emmanuel Macron toujours droit dans ses bottes.
Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier. Et en fonction de l'évolution de cette épidémie, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure.
Et puis la polémique de la semaine, le financement par la ville écologiste de Strasbourg d'une grande mosquée.
Moi, mon mot d'ordre, c'est pas un euro d'argent public pour les ennemis de la République.
Les ennemis en question évoqués par Marlène Schiappa, c'est une fédération turque derrière cette mosquée qui refuse de signer la charte des valeurs de la République. Depuis, la polémique enfle avec en arrière-plan les tentatives d'ingérence turque sur la prochaine élection. Menace non voilée selon Emmanuel Macron. Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti, bienvenue. L'avantage des grandes voix historiques d'Europe 1, c'est qu'elles observent la vie de la 5e République depuis des décennies. Alors à 13 mois maintenant de la présidentielle de 2022...
Depuis 50 ans, dites-le quoi. Ouais,
j'ai voulu rester simple.
Mais nous n'avons pas vécu le départ de Clémenceau et l'assassinat de Jean Jaurès.
C'était bien de le préciser. En tous les cas, à 13 mois de la présidentielle de 2022, on a très envie de vous entendre sur la candidature de la semaine, celle de Xavier Bertrand. Ce n'est pas une surprise, mais ça provoque des remous, on va y revenir. Mais d'abord, Catherine Ney, sur la forme, sur le timing, une longue interview dans Le Point, en pleine troisième vague du Covid, est-ce que c'était le bon moment ?
Ça, s'il l'a choisi, c'est qu'il a pensé qu'il l'était. Ça, c'est son choix. Mais enfin, on voit qu'il est passé de la tentation ferme, parce qu'on savait depuis longtemps que l'idée le démangeait. Il ne le cachait à personne, mais peut-être que les Français ne le savaient pas encore, au passage à l'acte. Donc, il dit « je serai candidat, je ne passerai pas par les primaires ». Vous voyez ? Et donc, il fait don de sa personne à la France. Voilà. Mais vous savez, une élection, c'est une question de désir. Lui, il a envie d'être président. Il le marque. Et il s'en donne les moyens. Il vient de là, d'être un projet présidentiel qu'il évoque déjà dans le Point. C'est un programme de droite. On y reviendra tout à l'heure.
Oui,
très bien.
Absolument.
Il est sur le désir. Le problème, il faut qu'un désir soit réciproque en politique. C'est-à-dire, est-ce que cette annonce...
Comme un amour.
Voilà. Ça va susciter quoi ? Est-ce que ça va susciter l'intérêt peut-être ? Je veux dire, est-ce que des Français vont se dire, eh ben ça y est, on est là, c'est lui qui remplacera Macron, c'est pour ceux qui ne veulent plus voter Macron. Hein ? Et puis surtout, on voit qu'il gagnerait peut-être plus de voix face à Marine Le Pen, il passerait mieux qu'Emmanuel Macron.
57% selon un sondage.
Bon, il a choisi ce moment, c'est son moment, je ne sais pas s'il a raison, s'il a tort, mais voilà.
Gérard Carrérou.
Je crois qu'il vaut mieux être le premier sur une bonne affaire que le dernier sur une mauvaise. Alors là, il part effectivement, il a l'avantage de celui qui part d'abord. Et je crois que vu son gabarit à lui, sa personnalité à lui, c'est peut-être la bonne idée. Bon, il a un programme...
Qu'est-ce que tu veux dire par gabarit ?
Je veux dire le gabarit, je vais y venir. Le gabarit pour moi, c'est qu'actuellement, on ne peut pas le considérer comme un candidat poids lourd. Dans la vie politique, il y a des poids lourds, des poids moyens et des poids plumes. Bon, il est, lui, aujourd'hui, un poids moyen. Il a une expérience, pour des tas de raisons. C'est donc pas encore un poids lourd. Donc, c'est vrai, si tu veux, c'est ça ce que j'appelle le gabarit. Mais par rapport à l'ensemble, il a un programme sérieux, on en parlera, un positionnement clair, anti-Macron d'un côté, anti-Le Pen de l'autre. Il a une stratégie, bon, pas de primaire, etc. L'homme du peuple contre les élites, c'est l'agent d'assurance contre les énarques. Et sa faiblesse, à la fois, c'est ce que je viens de dire, c'est pour ça que je le gardais pour la fin, sa faiblesse, c'est d'être un poids moyen. Parce qu'il y avait dans le temps des poids lourds, tout de suite, on sentait un Mitterrand, on sentait que ça serait un poids lourd. Un Chirac, on sentait quand même que ça serait un poids lourd. Un Sarkozy aussi. Lui, pour l'instant, on ne sent pas ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas l'acquérir.
Un poids moyen à 14% dans les sondages, qui n'est pas l'homme providentiel de la droite, Michel
Cotta.
Non,
mais d'autant que des poids moyens...
Non, il y a plus de 14%.
Il est à plus de 14%
entre 14 et 16.
Non, mais des poids moyens, c'est plutôt ça qui existe en ce moment. à l'intérieur de la droite et comme d'ailleurs à l'intérieur de la gauche. Il n'y a personne qui se détache.
Dans le magasin, il n'y a pas beaucoup de poids lourds.
Et c'est justement pour ça, et c'est justement pour ça qu'il a choisi de se déclarer là maintenant. Et moi, je trouve que c'est un candidat quand même plus assez sérieux dans la mesure où c'est le premier, il a foncé, c'est ce qu'il fallait faire, à mon avis, pour lui. Deux, c'est effectivement l'homme qui a choisi le territoire, en disant « non, Paris et tout ça, j'en veux plus, ça compte beaucoup en ce moment ». Et bon, on verra, le problème c'est qu'il faut qu'il se passe quelque chose maintenant. Il faut que son appel soit entendu, que ça rebondisse sur quelque chose, et au fond... Quel est notre juge à tous et quel est son juge ? Ce sont les sondages.
Et l'élection, et quand même, la plus d'assurabilité, oui. C'est l'élection où il est candidat, c'est-à-dire les régionales.
Oui, mais enfin, déjà, vous voyez, il est un poids moyen, mais audacieux, parce qu'il ne tourne pas cette fois autour du lit pour écarter les vols du baldaquin.
Charles Villeneuve, justement, sur l'élection régionale, dont il avait fait un préalable avant sa candidature à la présidentielle. On sait que demain, le Conseil scientifique va donner son avis au président de la République pour un report éventuel. Le fait qu'il annonce sa candidature maintenant, c'est une façon de damer le pion à Emmanuel Macron ?
Non, mais c'est un poids moyen, en effet, déterminé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans son programme, c'est la manière dont il l'a élaboré. Nous l'avons rencontré avec Catherine assez longuement. Je l'ai rencontré une deuxième fois, notamment sur ces mesures dont on parlera tout à l'heure, ce qu'il propose. Il est déterminé en ce sens où il a fait mesurer chacune des propositions qu'il fait. Et surtout, pour convaincre, si vous voulez, l'électorat qui est assez désabusé aujourd'hui par rapport aux promesses électorales et à la réalisation de ces promesses, c'est qu'il fixe un mandat unique de 5 ans pour convaincre les gens qu'il ira vraiment jusqu'au bout et qu'il exécutera ses promesses. On verra, bien sûr, s'il est élu, bien évidemment. Mais il est parti tôt, justement parce que c'est un poids moyen, comme le faisaient remarquer mes camarades, parce qu'il veut habituer l'électorat d'abord de son camp, c'est-à-dire des Républicains, qu'il a quitté et qu'il faut quand même, avec lesquels il faut qu'il se réconcilie aussi. C'est une difficulté non négligeable sur ce plan-là. Et il a convaincu quand même des poids lourds de son parti, puisque des gens comme Éric Woerth, qui est quand même plutôt proche, me faisait remarquer tout à l'heure Gérard Carrérou, de Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé, appuie et approuve son départ de candidature.
Alors, sauf qu'il y a aussi beaucoup de critiques. Écoutez par exemple Aurélien Pradier, secrétaire général LR.
Avant de vouloir rassembler les Français, il faut aussi faire en sorte de rassembler sa famille politique. Moi, je suis aujourd'hui secrétaire général des Républicains. Xavier Bertrand a quitté notre famille politique. Bien désormais, s'il veut rassembler les Français, il lui faut trouver les moyens de rassembler sa famille politique.
Aurélien Pradier, chez nos confrères de France Info, rassembler la famille de la droite quand on l'a quitté, comme vous le disiez, Charles Villeneuve, en 2017, c'est compliqué.
Oui, mais la mettre aussi.
Sa famille, ça, c'est du juridisme politique.
La mettre aussi devant le fait accompli, c'est pas mal, parce que maintenant, se pose quand même le problème des primaires. Alors, je sais que Valérie Pécresse a rencontré Xavier Bertrand, justement, en lui disant d'accepter les primaires, etc. Xavier Bertrand a dit non. Alors maintenant, ça met les Républicains devant des primaires qui ne peuvent pas avoir lieu avant septembre-octobre. Et à ce moment-là, si Xavier Bertrand est très haut, d'un seul coup, on lui découvrira chez les Républicains des vertus en disant qu'il n'a jamais rompu avec les siens, etc.
Et il aura pris une avance qu'on dira qu'il a bien joué.
Et si dans l'intervalle, il n'a pas marché, ça ne résout pas le problème de la droite, parce que je leur donne bien du plaisir à faire des primaires, alors qu'on a le souvenir de primaires terribles et des primaires en septembre-octobre, alors que l'élection aura lieu 6 mois plus tard.
C'est pour ça qu'il a bien fait. Je disais, le premier sur une bonne affaire, ouais. Je pense que pour la droite, c'est une bonne affaire, l'élection présidentielle, s'ils l'ont perdue déjà 2 fois. Alors, s'ils ne veulent pas faire jamais 203, ils ont intérêt à se dépêcher. Mais là, il a pris de l'avance. Oui. Il a pris de l'avance, réellement. Et sauf, alors il y a une hypothèse qu'on ne pourra jamais écarter, jusqu'au dernier moment, c'est l'homme providentiel. Il y a eu un moment donné, il y avait Nicolas Sarkozy qui incarnait ça dans la coulisse. Aujourd'hui, il y a Édouard Philippe qui peut incarner ça dans la coulisse. Mais à part l'homme providentiel, qui n'est pas forcément fatal, il est d'ores et déjà, à mon avis, il a gagné quelque chose.
Et il a raison, de vouloir renoncer aux primaires. Parce que les primaires, pour un camp, c'est très, très dangereux. Alors, d'abord parce qu'on se bagarre entre soi, on se dit les uns les autres des choses que même l'opposition n'aurait pas dire, et qu'après, la famille est complètement cassée. Ça crée des brisures et ça crée le séparatisme. La primaire, c'est le séparatisme.
C'est pour ça que c'est pour ça que la détermination est très importante là-dedans. Oui. Tant qu'il est déterminé à se présenter... Alors, il faudrait que la primaire désigne quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre se présente contre lui. Ce qui n'est quand même pas envisageable pour la droite.
Non, mais il a quand même une difficulté, justement, parce qu'il est candidat. Sa primaire à lui, ce sont des régionales. Bon, à partir du moment où il gagne, c'est ce qu'il a dit.
C'était un préalable, absolument.
C'était son préalable. Cela étant, les régionales peuvent être parfaitement reportées, puisque pour une raison, si vous voulez,
sanitaire.
Celle de la pandémie, et c'est une bonne raison. Mais elles ne peuvent pas être reportées après, durant 2022. Parce qu'à ce moment-là, les présidents de région seraient, ils ont un mandat de 6 ans, ils seraient quasiment à 7 ans, 8 ans. Et ça, c'est inconstitutionnel.
Alors, on en reparle.
Et donc, ces régionales devraient se faire peut-être à l'automne prochain.
C'est-à-dire juste avant la présidentielle.
C'est ça. On en reparle juste après, avec notamment le fond du programme qu'il évoque dans cette longue interview au Point Xavier Bertrand, juste après cette première pause. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Le débat des grandes voix jusqu'à 11h avec Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Catherine Ney et Michel Cotta. Il a fêté ses 56 ans il y a moins d'une semaine. Il fut le porte-parole de Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle victorieuse de 2007. C'est Xavier Bertrand qui a annoncé sa candidature officielle à la présidentielle cette semaine. Longue interview dans Le Point dans laquelle il dit notamment « Un président ne peut pas être normal, mais il ne doit pas se prendre pour un dieu ». On a bien compris que Hollande et Macron étaient dans le viseur.
Personne n'a pris Hollande pour un dieu.
Non, mais pour un président normal, c'est ce qu'il disait.
Non, oui, d'accord.
Sur le fond, Xavier Bertrand se veut le chantre d'une droite sociale et populaire, l'héritage du gaullisme social, sauf que lorsqu'on lit ses propositions dans Le Point, elles sont quand même très marquées à droite, très régaliennes.
Ben, c'est du gaullisme social qui s'est adapté à la société d'aujourd'hui. Parce que les problèmes, je prends par exemple les problèmes de sécurité, il a des propositions très précises sur les problèmes de sécurité et de terrorisme, il est clair que ces problèmes-là ne se posaient pas tout à fait de la même manière à l'époque du général de Gaulle. Donc on ne peut pas lui reprocher. Ce qui compte, c'est la démarche. Il veut une démarche gaulo-sociale. Ça, c'est une démarche générale. Sur les mesures en particulier, je dis, elles sont effectivement à droite. Ce sont des mesures de droite, je prends la sécurité, elles vont toutes dans le sens de ce que réclamaient un certain nombre d'hommes politiques de droite depuis déjà des années. Les peines quasi automatiques pour un certain nombre de cas, la période de sûreté à se porter à 50 ans pour des jeunes terroristes, dit-il, qui sont aujourd'hui des gens de 20 ans qu'il faut mettre hors d'état de nuire, et ainsi de suite.
Alors, son analyse, vous avez bien remarqué que dans son texte, il n'y a pas tellement d'allusion à la pandémie. Son analyse, c'est que ça n'est pas là-dessus, au fond, que Emmanuel Macron sera attaqué. Mais ce sera sur le régalien. Donc c'est sur le régalien qu'il a fixé son attaque, et avec effectivement la retraite à 65 ans, c'est volontairement qu'il a choisi cet angle-là pour attaquer Emmanuel Macron.
La restauration de l'autorité, Charles Villeneuve, l'intransigeance sur nos principes et nos valeurs, dit-il, l'autorité dans un pays gangréné par l'insécurité et la violence, ce sont ces mots.
Non mais, quand vous dites très à droite, le gaullisme c'est d'abord l'ordre, il ne faut jamais l'oublier, c'est d'abord le régalien, c'est l'autorité.
C'est pas lâcher en lit, quoi.
C'est l'autorité, c'est pas lâcher en lit, exactement, selon le mot du général, par en rapport 68. À mai 68. Absolument. Et c'est le social aussi. Ça, on ne peut pas enlever quand même à Bertrand sa dimension sociale. Il l'a montré dans tous les postes qu'il a occupés, notamment ministériels.
Et il en reparle avec sa République des territoires.
Exactement. Et il a très bien compris qu'aujourd'hui, de toute façon, l'excès de centralisation, on le voit dans l'organisation, notamment de la campagne de vaccination, et dans le fait que les maires montent au créneau, comme le maire de Cannes, quand même, David Lisnard, etc., qui a 4000 doses et qui veut étendre cette vaccination et pas la limiter simplement aux plus de 70 ans. Parce qu'il est bien évident qu'il y a des tas de gens de 50 ans qui sont en première ligne, qui ne sont pas seulement en deuxième ligne, notamment sur le plan de cette pandémie. Et donc, C'est pour ça qu'il parle de la République des territoires. C'est assez intéressant parce que chacune des mesures a été profondément étudiée. Quand je dis étudiée, ce sont des études, si vous voulez, non pas de marketing, mais des études sondologiques, si j'ose dire, et qui ont été faites et qui correspondent quand vous allumez la radio, que vous allumez la télévision et que vous lisez les journaux, vous voyez très bien que c'est l'une des premières préoccupations des Français. Parce qu'il part du principe, comme le sous-entendait notamment dans sa remarque Michel Cotta, il part du principe que le Covid sera derrière nous. Enfin, j'espère qu'il a raison, et pour tout le monde.
Alors, vous parliez des mesures régaliennes, il y a aussi les mesures économiques que vous avez commencé à esquisser. Michel Cotta, il promet de ne pas augmenter les impôts, de rallonger l'âge de départ à la retraite à 65 ans et de rembourser, Catherine Ney, la dette Covid. Il faut être sérieux, dit-il, en cette matière. C'est une espèce de petit tacle à Arnaud Montebourg, avec qui il avait échangé ces derniers temps, dont on se demandait s'il y avait rapprochement ou pas.
La France insoumise, non, mais c'est vrai, aujourd'hui, dans un État qui est endetté, on rembourse. Alors, on rembourse la question sur combien d'années. Mais alors, de toute façon, il va falloir rembourser, ça c'est vrai, il ne peut pas dire le contraire. Et d'ailleurs, même Marine Le Pen le dit, mais elle, il faut dire aussi, elle est très endettée, donc elle le dit pour ne pas faire peur à ses...
Cela étant, il s'attaque à un sacré dossier, avec évidemment le travail à 64-65 ans. Là, il y aura du fil à retordre.
Oui, c'est par étapes.
Mais aussi, il prévoit la participation. Il prévoit une participation.
Laurent Berger, etc., ne sont pas encore sortis. Et compagnie ne sont pas sortis du bois, et ça va être quand même un sacré dossier.
Le seul bémol pour la déclaration de Xavier Bertrand, c'est, on voit l'angle d'attaque de ses adversaires sur la région. Par exemple, quelqu'un comme Sébastien Chenu, qui représente le Rassemblement national, dit tout de suite « Ah ben alors on va l'attaquer sur le fait qu'on ne peut pas être président de région, dire qu'on se présente à la région et après laisser tomber la région pour aller à Paris ». C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui va être exploité par ses adversaires sur le terrain.
Même par ceux, ça va être exploité, y compris par les socialistes dont beaucoup lui faisaient dire « Écoutez, on votera pour vous ». Parce que c'est vrai qu'il y a une alliance derrière une candidate verte, il y a quatre...
De toute la gauche.
Toute la gauche, mais on sait très bien que 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça ne fera pas 4. Que la personnalité de cette dame est suspectée par des gens de gauche qui ont signé et qui voteraient et qui étaient disposés à voter pour...
Ils l'ont déjà fait la première
fois. Ils l'ont déjà fait et ils sont disposés à le faire parce qu'il a acquis une réputation de bon gestionnaire, de quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Il est apprécié dans sa région. Et peut-être que là, ça va être un bémol. Les gens vont dire, il nous lâche. Quoi. On est déçus.
Oui, alors justement, vous avez dit, je ne sais plus si c'est Charles ou si c'est Catherine, ou Michel d'ailleurs, je ne sais plus. Je vous écoute, mais en même temps...
Ça a été dit par une grande voix.
Ça a été dit par l'un ou l'une d'entre vous. Et il y a peu de choses sur la Covid et la maîtrise et la gestion. C'est toi. Bon, rendons à Michel.
Moi, j'ai rien dit.
Mais en fait, vous dites, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai que la manière dont quelque part, les gens comprennent très bien. Quand ils dénoncent le parisianisme absolu de la République, quand il dit qu'il faudra déparisianiser la République, quand il parle effectivement de cette République des territoires qui fait mieux le boulot que la République centralisée avec sa fonction publique qui, pour l'instant, bon, c'est une manière d'attaque. Et c'est vrai qu'il, c'est au fond, quand je disais tout à l'heure qu'il avait un programme un peu sérieux, c'est un Girondin maîtrisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour la décentralisation simplement, mais pour une vraie politique des territoires. Donc, et ça, il l'incarne dans sa région. Il devrait l'incarner dans sa région.
Vous voyez, Sébastien, vous disiez de toute façon que nous avions assisté à beaucoup de moments historiques. Oui. Là, nous remontons à la Convention.
Merci les grandes voix pour ce premier débat consacré à Xavier Bertrand et sa candidature à la présidentielle. Je vous rappelle, bien sûr, que c'est l'événement de la fin de semaine. Demain, Xavier Bertrand, invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Ce sera à partir de 10h. Dans un instant, le deuxième débat du jour. Emmanuel Macron qui refuse tout mea culpa dans sa stratégie Covid. Est-ce que ça peut tenir? Je vous pose la question dans un instant.
10h, 11h, les grandes voix d'Europe 1.
Je vous ai promis le débat sur Emmanuel Macron, le non mea culpa, etc. Mais les grandes voix sont intarissables. Elles continuent à parler pendant la pause publicitaire de Xavier Bertrand. Vous vouliez ajouter un mot, Catherine Ney, notamment sur le fait qu'il peut-être... Est-ce un rempart plus intéressant qu'Emmanuel Macron pour certains électeurs, ce Xavier Bertrand ?
Mais oui, parce qu'il est craint à l'Élysée. Et moi, j'ai vu comme un signe le fait que le président ait choisi comme Premier ministre Jean Castex, qui était le directeur de cabinet de Xavier Bertrand à la Santé. Ils ont toujours gardé des liens, ils s'entendaient bien, ils se respectaient. Et puis voilà, et là d'ailleurs, comme le disait Michel tout à l'heure, vous avez remarqué que jamais Xavier Bertrand n'attaque le Premier ministre. Et pour cause, c'est son ami, vous voyez. Et ensemble, ils avaient pris une décision qui était très importante. Et moi, c'est ce que je retiens, c'est qu'ils avaient interdit de fumer dans les restaurants. Donc, rien que pour ça, je les bénis.
Il faut rappeler quand même que Xavier Bertrand ne le cache pas. Il a été appelé par Emmanuel Macron pour être son Premier ministre et il a refusé au début, en 2017. Il a été, on se l'est dit comme ça, mais maintenant, il le dit lui-même. Il a donc été... C'est les rapports entre les gens, entre Paris, là, les territoires, sont plus compliqués qu'on le pense.
Ce qui me frappe, Michel, au cours de l'émission, là, mon poids moyen du départ...
Il a pris 3 kilos de l'épaisseur
et de devenir un poids lourd. Mais c'est peut-être vrai. C'est peut-être potentiellement ce qui peut se passer. Hein. On ne l'exclut pas.
Dans le désert,
il a une double dimension intéressante quand on le connaît un peu. J'ai lu dans un certain nombre de commentaires, dans les journaux, qu'on lui niait sa dimension sociale qui est réelle. Pas seulement sur l'interdiction de fumer dans les restaurants bien sûr. Mais il n'empêche que c'est vrai qu'il est à l'origine de cette mesure. Mais aussi... C'est un candidat dangereux pour le socle de droite que s'est bâti petit à petit le président de la République. Et socle de droite qui est quand même attentif aussi aux inégalités, notamment sociales, qui sont importantes, qui se sont élargies avec la pandémie. Et ça, c'est vrai qu'il ne parle pas de la pandémie dans son programme, qu'il n'y a pas fait allusion, mais Dieu sait si... Il faudrait, et nous avons échangé sur ce plan-là avec lui, en disant que, notamment dans le domaine de la recherche, l'échec français est considérable. Et que sur ce plan-là, lui qui a été ministre de la Santé, devrait quand même intégrer dans son programme cette dimension-là.
Bref, il va falloir se lever de bonne heure pour les autres candidats s'ils veulent effectivement rattraper l'avance qu'il est en train de prendre.
Oui, mais ce que je mesure mal encore, parce que c'est l'impact qu'un discours, qu'il a en des discours. Est-ce qu'il est capable de séduire
d'avoir cette opportunité? Ça va beaucoup compter.
Ah ben non, parce que moi, en meeting, jusqu'ici, c'était, ça me laissait plutôt un encéphalogramme plat. Mais est-ce qu'il va,
Il faut tenir.
C'est un banc d'essai intéressant pendant une heure sur Europe et sur CNews.
C'est la conversation, c'est pas le meeting, c'est pas la forme.
Mais il a dit qu'il parlerait beaucoup tous les jours, quasiment à partir du mois d'avril.
Il en
pas tous les jours, mais entre les
entretiennent sans user.
Et ça, c'est quand même une difficulté, c'est que pendant 13 mois, va falloir entretenir sa candidature. Et sur la distance, il ne faut pas oublier que des gens comme François Mitterrand ou Jacques Chirac sont partis au maximum 7 mois avant l'élection présidentielle.
Vous rappelez que Fillon avait perdu un mois après sa désignation. Il avait perdu un mois en disant qu'il faudrait que je tienne à partir de janvier-février. Donc ça, il faut tenir. Alors les gens qui disent « Ah, il faut qu'il fasse rêver ». Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Personne ne rêve aujourd'hui. On rêve simplement de s'en sortir.
C'est un grand rêve de s'en sortir avec quelqu'un qui vous le propose. C'est ça le rêve ultime.
Il faut qu'il fasse sérieux.
C'est ça.
Il va falloir tenir malgré tout, comme vous le disiez, parce que vous évoquiez Mitterrand, Chirac, Sarkozy aussi, c'était, je crois, déclaré au mois de novembre. Alors, est-ce qu'il est parti trop tôt? Ce sera une question à suivre.
Oui, et il n'a pas un parti, c'est vrai qu'il y a un petit handicap, on l'a un peu effleuré, mais il a un petit handicap quand même. C'est le fait d'avoir pris du champ par rapport aux Républicains, qui ont quand même une grosse surface en termes d'élus un peu partout en France,
notamment
etc.
sur le plan municipal.
Et sur le plan municipal, bien sûr, mais aussi sur le plan législatif, il y a quand même 100 et quelques députés. Enfin bon, il n'a pas pour l'instant, il n'a pas ce renfort et ces gens qui peuvent... Alors, il peut les agréger peu à peu, mais pour l'instant, il ne les a pas encore. Hein.
Alors, on arrête cette fois avec Xavier Bertrand. On remarque une dernière petite pause. Et après, on parle, comme promis, d'Emmanuel Macron, de sa stratégie anti-Covid et son refus de faire un mea culpa.
Les grandes voix d'Europe 1.
Les grandes voix, Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Avec le Covid maintenant, près de 42 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, 4 766 patients en réanimation, plus de 3 200 classes fermées contre 2 000 il y a une semaine. Ça flambe, l'épidémie de Covid de plus en plus incontrôlable. Et pourtant, jeudi soir, en conférence de presse, Emmanuel Macron.
Est-ce que le 29 janvier, nous aurions dû confiner le pays ? Non. Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier. Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec.
Aucun constat d'échec, Gérard Carrérou.
Oui, là, je dois dire que mon reproche principal, je pense que je ne suis pas le seul, c'est qu'Emmanuel Macron est dans l'autosatisfaction immodérée. On sait bien que les chefs d'État, et on a cité tout à l'heure Mitterrand pour autre chose, ils n'ont pas l'habitude, les chefs d'État, en tout cas sous la Ve République, de faire des mea culpa. Mais on peut quand même, entre faire des mea culpa et dire on a tout bon, on a tout fait, tout bien, parce que c'est exactement comme ça qu'on pouvait retenir ce qu'il a dit il y a deux jours, tout fait, tout bien, je pense qu'un certain nombre de Français se disent mais enfin quand même, il y a quand même eu un cortège de mauvaises décisions. Et je vais prendre une seule. Le professeur De Frécy, le président du Conseil scientifique, il a été gaussé, on s'est foutu de lui, mais alors largement, sur un certain nombre de médias, pour avoir été un peu le prophète de malheur. Et le président de la République a dit, mais il m'avait induit en erreur, en gros. Or, quand on a vu, j'ai vu hier sur une chaîne de télé, la déclaration de De Frécy du 24 janvier, et la déclaration de Macron, on s'aperçoit que ce qu'avait dit le professeur De Frécy, c'est-à-dire si le variant anglais l'emporte peu à peu, etc., et si on ne change pas en faisant des pas de plus une nouvelle stratégie, etc., la situation sera extrêmement difficile. Il avait dit quand ?
À la mi-mars.
À la mi-mars. Donc il avait raison, et on s'est moqué de lui, on a dit non, ça peut attendre. Et
sauf
la stratégie.
Que Gérard Carrérou, ouais. Emmanuel Macron lui répond ouais. Il y aurait 30 000 nouveaux cas quotidiens à la mi-mars et aujourd'hui je n'ai pas confiné le 29 janvier.
C'est l'autosatisfaction quand même que je dis.
Et il y a 30 000 cas. Aujourd'hui, 40
000, qu'est-ce qu'on reproche au président de la République ? De ne pas avoir fait, de ne pas avoir demandé pardon ce qu'a fait Angela Merkel. C'est le contraste qui fait qu'on le critique.
Mais pour des raisons diamétralement opposées.
Il n'a pas fait ce que Mme Merkel a fait et qu'elle a dû retirer. Donc, sur ce point particulier, c'est lui qui a raison. Sur ce plan-là, évidemment.
Attendez.
On laisse conclure, Charles, et vous lui répondez.
Il n'a pas confiné. Bon. Or, Mme Merkel devait fermer les commerces, tous les commerces.
Mais non, mais ils sont fermés. C'est pas ça. Son pardon, c'est pas ça.
Et les messes de Pâques.
Mais non.
Il fallait pas célébrer les messes de Pâques.
Elle demande pardon
parce que les ministres résidents des Länder, d'ailleurs, avaient de toute façon eux-mêmes approuvé la décision de Mme Merkel. Et eux aussi ont dû ravaler cette approbation. Et lui simplement, il n'a pas confiné. C'est pour ça qu'il dit, de toute façon,
c'est une fausse symétrie, je suis désolé, c'est une vraie fausse symétrie.
Oui, absolument pas.
Je ne suis absolument pas d'accord avec vous.
Non, en janvier, c'est posé la question, fallait-il confiner ou pas ? Et on se souvient quand le JDD annonçait ses proches. Bon, il y a eu de telles réactions de l'opposition, de tout le monde, vous n'allez pas recommencer le confinement, que Emmanuel Macron, il a fait une analyse entre bénéfices sanitaires, bénéfices économiques, il a dit, mais on ne reconfine pas. Il a envoyé balader le professeur De Frécy qu'on n'a plus entendu. Bon. Aujourd'hui, il dit, compte tenu de ce qui s'est passé pendant ces deux mois où l'activité économique a continué, tout ça, je ne le regrette pas, je n'ai aucun remords. Il n'aurait pas dû ajouter aucun constat d'échec, parce que c'est quand même un constat d'échec puisque la pandémie repart. Voilà. Donc, ça, il a eu tort, vous voyez.
Il a eu tort là-dessus.
Oui. Bon. Mais Mme Merkel, elle demande pardon, mais sur une chose minuscule. Figurez-vous que comme elle n'est pas Jupiter et qu'elle ne peut rien prendre de décision sans en référer aux Länder, ils se sont réunis pendant 15 heures jusqu'à 3 heures du matin pour décider quoi ? Qu'au week-end pascal, des Allemands qui est confiné, mais un confinement allemand, c'est-à-dire on sort comme on veut, jusqu'à 3h du matin, la nuit, le jour, qu'importe. Il n'y a pas d'attestation, il n'y a pas de masque. On est dehors sans masque. Bon. Et elle dit le jeudi, ça serait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Eh bien, elle, le jeudi, ça a posé tellement de problèmes avec les industriels qui disaient « mais est-ce qu'il faut chômer ?» tout ça, que n'ayant pas de réponse, elle a dit « on supprime le jeudi ». Et elle a demandé pardon pour le jeudi.
Michel
Donc,
Cotard.
C'est rien du
non,
tout.
Non, mais je veux dire, quand même, c'est vrai que ce sont deux démarches. Elle a été, elle s'est excusée parce qu'elle voulait trop confiner. Et
un
au
jour.
Fond, un jour, d'accord. Mais Emmanuel Macron, lui, s'est excusé, enfin, aurait dû s'excuser. Peut-être qu'il aura à s'excuser d'avoir pas assez confiné.
Les deux démarches sont... Tout le monde l'a applaudi
justement,
quand il n'a pas confiné.
Tout le monde
alors, et ce sont les mêmes aujourd'hui qui l'accusent.
Voilà. Et c'est vrai quand même.
C'est ce que je veux dire.
C'est
ce que je veux dire.
C'est vrai que dans la
stratégie... Tout le monde l'a pas applaudi. Une fraction forte.
Laisse finir Michel Bataille. Je vous donne la parole, Gérard
Carrel. Pour la stratégie, c'est vrai qu'il a misé sur la montée des vaccins très vite et une pandémie qui pouvait se juguler, se réparer, se regarder et être maîtrisable. Bon, il n'a pas eu, franchement, il n'a vraiment pas eu de chance avec les vaccins. Alors, ça, on s'en mettra en cause.
Chance,
on mettra en cause sans doute la Commission européenne.
Non, mais il a fait son mea culpa à demi-mot. Sur le fonctionnement de l'Europe par rapport justement au
vaccin. Voilà, justement. Et un jour, on se posera.
Qu'il a dévié le tir.
Il a fait son mea culpa sur la poitrine de l'Europe.
C'est ça.
D'ailleurs, il a même rendu hommage, sans le dire évidemment, à Trump, d'avoir effectivement engagé très tôt les moyens financiers.
D'avoir eu cette folie.
C'est pas ça que je voudrais dire. Je voudrais juste dire un mot pour la situation à venir. Parce que là, on vient d'analyser la situation qui vient de se passer. Moi, je vous signale quand même que, vu les chiffres qu'on a encore entendu ce matin sur Europe 1, les chiffres, à la fois du nombre de gens contaminés chaque jour, on n'est plus on n'est plus à 5 000, ni à 20 000. On est autour de 35-40 000.
42 000 les 24 dernières heures, 45 000 la veille.
Exactement. Et le chiffre des réanimations, on a passé 4 800.
On est à moins de 4 800, 4 766.
On est autour de 5, on va être
on est moins
semaine,
que le premier
minute
pic,
semaine.
Hein.
Oui, mais ça veut dire aussi que s'il y a 42 000 cas positifs tous les jours, et seulement 4 000 sur tout le territoire. Et tout ça, ça veut dire que la plupart des gens sont positifs sans avoir de symptômes. Ou rien.
Oui, enfin, il y a quand même 300 morts par jour. Il y a quand même 300 morts par jour. Et on est pas loin de 100 000 morts. La semaine prochaine, enfin, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 10 jours, on aura 100 000 morts en France. Donc, je veux dire par là que les mesures d'autosatisfaction ne me semble pas de mise aujourd'hui.
On est d'accord avec toi.
De toute façon, c'est vrai qu'il a été le maître de la stratégie et par conséquent, il en sera le premier responsable. Si ça marche, on dira formidable, ça a marché. Si ça ne marche pas, il sera vraiment mis en cause.
Le débat des grandes voix se poursuit. Dernière pause et on se retrouve avec Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Catherine Ney et Michel Cotta. À tout de suite.
10h, 11h, les grandes voix d'Europe 1.
Troisième et dernier débat des grandes voix consacré à la polémique de la semaine. La ville de Strasbourg qui vote l'attribution d'une subvention de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une grande mosquée qui, à terme, doit accueillir 2 500 fidèles. Ce qui fait polémique, en fait, c'est qu'une fédération pro-turque va bénéficier de cette subvention. Fédération qui n'a pas signé la charte des valeurs de la République et qui a valu cette semaine cette réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Il y a particulièrement à Strasbourg, depuis longtemps, des tentatives d'ingérence extrêmement fortes dans notre pays, de la part notamment de la Turquie. Et nous considérons qu'elle n'aurait pas dû, cette collectivité, financer une ingérence étrangère sur notre sol.
Les grandes voix, vous pensez que derrière cette histoire, c'est la Turquie qui cherche à déstabiliser la France et à faire de l'ingérence ?
Non, mais moi je crois que Strasbourg est pour le président turc le cheval de Troie de ses réseaux en Europe même, vous voyez ? Parce que vous avez remarqué qu'en 4 octobre 2015, un mois avant des législatives en Turquie, il est venu à Strasbourg, il avait loué le Zénith, il y avait 15 000 personnes qui sont arrivées de Suisse, d'Allemagne et tout ça pour l'applaudir. Voilà. Il a fait un meeting électoral sans voir les officiels français. Il est arrivé comme ça, on a laissé faire, parce qu'on ne pouvait pas interdire. Il voulait faire une réunion à Bruxelles, alors que le lendemain, il avait une visite d'État à Bruxelles. Mais le maire de Bruxelles lui a dit « Ah non, pas question ». Donc, on est venu en France, à Strasbourg. Bon, autre question. Pourquoi est-ce que le consulat de Strasbourg, qui est maintenant face, enfin très près de la cathédrale de Strasbourg, C'est une espèce de blocos en grès des Vosges, rose, voyez. Mais 8 à 9000 mètres carrés de choses. C'est un truc énorme. Mais pourquoi faire? Et c'est bouclé, serré, des caméras partout. Donc certains disent que peut-être c'est les services secrets turcs, ici, en Europe. C'est une base pour les services secrets. Donc il y a toutes ces choses qu'on laisse faire. Et pourquoi, alors qu'on a laissé faire ça, on ne laisserait pas construire une mosquée? C'est-à-dire que là, il y a une absence de vigilance. Voilà. Et que Erdogan se croit chez lui à Strasbourg.
Sauf que la maire de Strasbourg rétorque en disant « J'ai le droit local avec moi. La loi de 1905 sur la laïcité ne s'applique pas en Alsace et en Lorraine. »
Non,
oui,
attends.
Ben, c'est pas
oui,
vrai.
Mais il y a une nuance qu'elle n'apporte pas aussi, la maire de Strasbourg. C'est qu'elle a la possibilité de le faire, mais pas l'obligation. Premièrement. Deuxièmement, pour compléter ce que dit Catherine, c'est qu'il faut savoir que Erdogan a deux masses de manœuvre en Europe. La première masse de manœuvre, ce sont les 5 millions et demi, 6 millions pratiquement aujourd'hui de Turcs en Allemagne. Mais en Alsace et la Moselle, il y a 600 000 Turcs. D'où d'ailleurs la construction de cette mosquée, qui aura deux minarets, de toute façon. C'est-à-dire...
mètres de haut.
En égalité quasiment avec la cathédrale de Strasbourg, qui est aussi un chef-d'œuvre, si vous voulez, qui vient du Moyen-Âge. Etc. Et donc, partant de là, elle n'a pas l'obligation, parce que cette mosquée, pour la terminer, il faut 2,5 millions d'euros. C'est une somme, vous savez, pour une municipalité. Et qu'elle accorde cette somme, alors qu'elle n'en a pas l'obligation, elle en a la possibilité, en effet, fait que ça pose un problème politique compte tenu des attaques déjà anciennes d'Erdogan et de l'AKP, dont l'AKP, son parti, qui est une filiale des Frères musulmans, dont la maîtrise absolue est celle de la dissimulation.
Michel Cotta, puis alors, Gérard Carrère.
Pour dire la vérité, quand même, le permis de conduire, le permis de construire a été accordé en 2014 et en 2015, donc la municipalité actuelle n'est pas complètement responsable de ce qui se passe. En tout cas, c'est sûr que c'est en contradiction avec tout ce qui est dit par... Emmanuel Macron, lorsqu'il dit « Je ne veux pas d'imam détaché ».
Il y en a 151.
Or, là, il y aura un imam, imam détaché qui vient de Turc.
Oui, qui sont payés par le gouvernement turc. Ils sont là. C'est le pays qui envoie le plus d'imams en France.
Dire, Catherine, c'est ce que je suis en train de dire. Allez-y, c'est-à-dire qu'il est en contradiction avec ça sur la loi sur le séparatisme. Et enfin, c'est vrai que l'association qui est responsable de la construction de cette cathédrale musulmane, de cette mosquée, est tout à fait en dehors des clous. Alors ça
et
change quand même.
Il y a aussi un projet
ça
de change campus quand même islamique à Strasbourg.
Oui, mais Michel, je voudrais rétablir un fait que je crois que tu t'es trompé là sur ce fait, c'est que la précédente municipalité, dirigée par M. Riss, qui était socialiste,
exact.
Il a effectivement, il le dit d'ailleurs, référence du Figaro de ses déclarations, entre guillemets, « Lorsque le projet de la mosquée, etc., m'a été présenté, j'ai fait vérifier qu'il était conforme, etc., blablabla, mais j'ai toujours indiqué, vu l'importance du projet, qu'il n'y aurait pas de subvention. » Ce qui veut dire que la nouvelle municipalité écologiste, elle n'était pas obligée. D'où elle était à l'encontre de ce qu'avait décidé le maire précédent socialiste. Elle a décidé, ce qui montre bien quand même ce sentiment, cette petite musique islamo-gauchiste qu'on trouve chez les écolos.
Et que d'ailleurs a dénoncé la maire de Paris. La maire de Paris, sur son territoire, a dénoncé cette dérive le fait qu'il ne respectait pas les principes républicains.
Le président de la République, Emmanuel Macron, est intervenu cette semaine dans une excellente émission, d'ailleurs,
sur France 5, c'est dans l'air,
qui était consacrée à la Turquie, et il a dit clairement qu'Erdogan et ses services secrets sont clairement intervenus durant la préparation de l'élection présidentielle de 2017, et que bien évidemment, il va renouveler cette attaque, en quelque sorte, relativement clandestine, ça relève de la cyber.
Il y aura des tentatives d'ingérence pour la prochaine élection. C'est écrit, les menaces ne sont pas voilées. En effet, c'est ce qu'il avait dit Emmanuel Macron. Merci Charles Villeneuve, merci Gérard Carrérou, merci Catherine Ney, merci Michel Cotta. Ce débat des grandes voix
est
terminé. Vous pouvez le retrouver sur europe1.fr en podcast, bien entendu. Je remercie également Jean-Luc Herblad à la réalisation de cette émission.
Et merci Capucine
Patouillet à la préparation de cette émission. Tout de suite, suite, c'est la table des bons vivants avec l'ami Laurent Mariotte. Bonjour Laurent. Laurent, quel est le programme?
Bonjour Sébastien et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Alors, j'ai remarqué, c'est le printemps. On va cuisiner acidulé ce samedi matin grâce au vinaigre. De Modène à Orléans, on va faire le tour du fût. Et puis nous allons recevoir un grand chef. Sa parole est rare. Ça fait un an pratiquement qu'il ne s'est pas exprimé sur la crise des restaurants. C'est Alain Ducasse qui sera des nôtres. On va faire une belle paella printanière. A tout de suite.
A tout de suite, on a hâte.
Europe 1.